Let's go.
Alors on va commencer, on va reprendre plutôt avec cette dernière communication de la journée et du colloque avant la synthèse de demain. Donc c'est la communication de Frédéric Detu, notre organisateur. Oui, notre organisateur officiel, le dernier des organisateurs officiels qui nous reste. Avec quoi, avec l'écran?
Ah.
Alors, Frédéric est doctorant à Paris 8, où il fait sa thèse sous la direction de Tiphaine Samoyau. Il a été assistant de littérature au Collège universitaire français de Moscou. Il a déjà organisé un colloque Volodine à Moscou en 2006, et puis quelques autres manifestations. Alors, mis à part les publications volodiniennes que vous connaissez tous, il a fait paraître récemment un collectif sur Novarina dans la collection Écriture contemporaine chez Minard. Et puis, il y a aussi un collectif qui va sortir dans la revue Études littéraires bientôt, qui porte sur la lecture littéraire et l'utopie de la communauté. Alors, sa communication d'aujourd'hui s'intitule « Post-exotisme et tradition littéraire ».
Merci. Bien, alors, le titre de la communication est à peu près le titre provisoire de ma thèse. Donc, j'ai pas pris de risque, je voulais être sûr d'atteindre 45 minutes, mais finalement, je suis pas si sûr que ça. On va voir si j'atteins ce gong des 45 minutes. Je voudrais expliquer le projet de parler de tradition littéraire à propos du post-exotisme dans un premier temps je voudrais expliquer le projet de parler d'une tradition littéraire à propos de l'œuvre de Volodine, à propos du post-exotisme plus exactement, dans un premier temps en expliquant comment c'est venu d'abord comme hypothèse, et en expliquant aussi que, et en précisant plutôt, que ce n'était pas une hypothèse qui allait de soi si l'on s'en tenait à la stricte revendication d'autonomie des narrateurs du post-exotisme et de leur prête-voix ici présent. Il faut remarquer à ce propos que c'est une première mise en tension du discours tenu dans le texte, dans le péritexte ou dans l'épitexte, mais que c'est une mise en tension qui me paraît, qui m'a paru nécessaire au regard des références intertextuelles qui échappaient néanmoins aux prête-voix et qui toutes renvoyaient à des œuvres passées du XXe siècle spécialement, dont la plupart ont été mentionnées ici, par exemple le surréalisme ou des figures comme Platonov et Zamiatine, sans parler du cinéaste Tarkovsky, dont le film Stalker avait été déjà vu 19 fois par le prête-voix la dernière fois que nous avons parlé du film ensemble. Spécialement, et je vais être amené à y revenir, c'est dans le sens du travail d'Annie ce matin et aussi de Catherine cet après-midi que j'ai problématisé cette question de la tradition littéraire. En gros, je vais essayer de synthétiser ce qui, ce matin, concernait l'avant 1945 et cet après-midi l'après 1945, en essayant de mettre ça dans ce que j'appelle tradition littéraire. À savoir donc, en deux mots pour commencer, que le post-exotisme prend en charge non seulement au niveau diégétique, toute l'histoire de la catastrophe de l'échec révolutionnaire au XXe siècle, mais encore toute une littérature qui, au fil du siècle, s'est déjà chargée de cette histoire catastrophique. Rester à partir de cette hypothèse à constituer tout ce corpus en amont du post-exotisme en tradition, que le post-exotisme construit rétrospectivement, puisque les traditions ne se construisent jamais que rétrospectivement. Et c'est ce que je vais tâcher de vous présenter en fonction de l'état d'avancement de la rédaction de la thèse en cours. Alors, vous avez avancé en conclusion de mon petit propos dans ma partie d'introduction mardi. Donc, l'idée que le nom de post-exotisme renvoyait, selon moi, à un régime artistique qui se distingue du régime esthétique inauguré par le romantisme. Et je vais donc tâcher d'étayer ça en repartant de la contradiction que l'on peut relever dans les définitions données par Volodin du nom post-exotisme. On est souvent d'abord frappé par une forme de maximalisme à la façon des avant-gardes, dans une volonté de rupture avec la littérature officielle, dans la recherche d'une autonomie absolue, à travers l'image utopique de l'ailleurs, puis dans la revendication d'une littérature politique à travers les références à l'internationalisme et au bolchevisme. À cet égard, la confrontation que met en scène la leçon 11 du post-exotisme, on dit leçon 11, est exemplaire, est éclairante. Les écrivains post-exotiques reçoivent la visite dans leur quartier de haute sécurité de deux écrivains à la mode, Blotno et Newkey, chroniqueurs pour un magazine culturel à grand tirage, chargé par celui-ci de les interroger sur leur littérature post-exotique. Or, évidemment, le dialogue tourne court. On en a parlé un peu. Les écrivains post-exotiques n'entendent pas faire la moindre concession à ces deux salariés de l'idéologie dominante, ces deux virtuoses du journalisme, du vedettariat et de l'écriture. Et j'avais déjà suggéré lors de débats qu'il me semblait que ça pouvait résonner avec des réflexions de Debord. Sur le spectacle, au sens où il le fait dans son analyse la plus contemporaine, celle qu'il fait du spectaculaire intégré dans ses commentaires sur la société du spectacle en 1988. Newkey et Blotno incarnent en effet un monde où, citation de Debord, le spectacle s'est mélangé à toute réalité en l'irradiant. Un monde qui se trouve pris dans un devenir falsification et où, tout étant récupérable par le spectacle, il se pourrait qu'il n'existe bientôt plus, plus rien, même plus quelques livres. Et là, de nouveau, citation de Debord, qui n'ait été transformé et pollué selon les moyens et les intérêts de l'industrie moderne. Où on pourrait reconnaître aussi des accents qui rapprochent cette analyse du spectaculaire chez Debord d'une analyse de l'industrie culturelle chez Adorno. Il me semble qu'il y a des ponts qui peuvent se faire. Le maximalisme post-exotique s'exprime alors nettement par la voix de Yassar Tarchalski, un autre passage qui a déjà été cité dans ces journées. Les écrivains engagés ont inventé des formes nouvelles parce qu'il fallait, expose-t-il à Blotno, citation, des supports littéraires qui ne pactiseraient pas avec vous et qui ne reproduiraient aucune de vos traditions et aucun de vos conformismes ou anticonformismes officiels. Ils ont inventé des formes vides que vous n'aviez jamais eu l'occasion de polluer et ils les ont remplies avec des visions auxquelles votre sensibilité est étrangère. Fin de citation. On peut donc reconnaître dans cette façon violente de manifester sa radicalité une posture qui rappelle les attitudes avant-gardistes, leur pose agressive à l'égard de la tradition, leur recherche formelle qui tend vers un idéal de pureté artistique. Mais il s'agit tout de même de faire une distinction relativement à l'articulation post-exotique de la littérature et de la politique. J'entends montrer que, d'abord, elle ne correspond qu'à une sorte d'attitude avant-gardiste, et qu'ensuite, ce n'est pas une politique de l'art proprement avant-gardiste, au sens où elle déborde largement me semble-t-il, le cadre des avant-gardes historiques. Je ne suis pas loin de penser, autrement dit, qu'en l'occurrence, la référence aux avant-gardes tend à faire écran. Je m'explique. Il faut revenir pour commencer sur la politique de l'art, ou plutôt les politiques de l'art, à l'époque des avant-gardes historiques. On peut soutenir que la politique de l'art est alors déterminée par la théorie littéraire du premier romantisme. Or, comme le montrent les travaux de Jacques Rancière sur le régime esthétique de l'art qu'instaure cette théorie, la politique de l'art dans le régime esthétique se trouve ainsi caractérisée par un paradoxe fondateur. Dans ce régime, expose Rancière, l'art est de l'art pour autant qu'il est aussi du non-art, autre chose que de l'art, car l'art est une promesse de communauté depuis sa sphère séparée, mais il est aussi une promesse de communauté en tant qu'il exprime une manière d'habiter un espace commun, un mode de vie qui ne connaît aucune séparation en sphère d'expérience spécifique. C'est pourquoi la politique de l'art est en réalité double et contradictoire, à savoir qu'elle peut être dans un sens une politique du devenir-vie de l'art et dans un autre une politique de la forme résistante. Je cite un passage de Malaise dans l'esthétique de Jacques Rancière, paru en 2004 chez Galilée. La politique du devenir-vie de l'art identifie les formes de l'expérience esthétique aux formes d'une vie autre. Elle donne comme finalité à l'art la construction de nouvelles formes de la vie commune, donc son autosuppression comme réalité séparée. Première politique. Deuxième politique, la politique de la forme résistante enclôt au contraire la promesse politique de l'expérience esthétique dans la séparation même de l'art, dans la résistance de sa forme à toute transformation en forme de vie. C'est peut-être là, il me semble, qu'on va peut-être essayer d'éclaircir en quoi peut-être le post-exotisme reste politique. Enfin, en tout cas, je vais essayer de le défendre. Il existe donc deux versants, l'un interventionniste, l'autre puriste de l'avant-garde, et il semblerait donc que le post-exotisme se range dans la deuxième catégorie, celle qui conçoit, pour le dire dans des termes adorniens, que le potentiel politique de l'œuvre d'art réside essentiellement dans la séparation radicale de celle-ci avec les formes de la marchandise esthétisée et du monde administré. Cependant, on ne peut pas comme ça présenter les choses de façon synchronique, comme si donc elles ne s'inscrivaient pas dans une histoire. Il suffit d'évoquer le rapport du post-exotisme au surréalisme pour s'en apercevoir. On peut s'étonner que Volodine marque à l'occasion sa dette envers le surréalisme, bien que la politique de l'art surréaliste soit une politique du devenir-vie de l'art, bien que le surréalisme ait même, selon Debord, un caractère indépassable de ce point de vue, car, je cite, « toutes ces ouvertures sont au-delà de la postface surréaliste à l'histoire de l'art sur les problèmes d'une vraie vie à construire ». Mais c'est que l'héritage post-exotique du surréalisme est autre que politique dans le post-exotisme, justement. À cet égard, Volodine prend l'exact contre-pied de Debord. Debord était partagé à propos du surréalisme. D'un côté, il louait en lui les tentatives d'affirmation d'un nouvel usage de la vie, mais de l'autre, il condamnait une fuite réactionnaire hors du réel et trouvait spécialement rétrograde. C'était bien la peine de laisser mon écran allumé comme ça. Il s'est éteint tout seul. Pardon. Donc, excusez-moi. Debord était partagé à propos du surréalisme. Je répète quand même, parce que là, sinon, on va perdre le fil. D'un côté, il louait en lui les tentatives d'affirmation d'un nouvel usage de la vie, mais de l'autre, il condamnait une fuite réactionnaire hors du réel et trouvait spécialement rétrograde en lui la surestimation de l'inconscient. Ce qu'il fallait retenir du surréalisme, selon lui, c'était l'idée que la promesse de bonheur contenue dans l'art est directement réalisable, que le temps est venu de dépasser l'art en le réalisant dans la vie. Or, chez Volodine, c'est tout le contraire. Le post-exotisme est avant tout un surréalisme par son recours littéraire à l'image, et donc parce que de bord juge réactionnaire et rétrograde. Comme l'explique encore Yassar Tarchevski à Blotno, en effet, c'est grâce à l'image surréelle en particulier. Et alors, l'image surréelle, à mon avis, elle revient dans la conception du merveilleux dans les rêves concentrationnaires selon Kérol. C'est grâce à l'image surréelle en particulier que les personnages emprisonnés du post-exotisme peuvent délimiter les territoires de leur liberté intérieure, car elle leur permet de donner une vie matérielle concrète à des mondes parallèles des ailleurs oniriques. Cette manière post-exotique d'ignorer la politique interventionniste du surréalisme est évidemment chargée de sens, alors même que les références à l'internationalisme et au bolchevisme entrent dans la définition du post-exotisme, et alors même que les auteurs du post-exotisme sont des militants radicaux qui ont pu verser dans le terrorisme d'extrême gauche tel Ingrid Vogel, assimilée dans Lisbonne dernière marge à une terroriste de la fraction armée rouge en 1977, et co-auteur du post-exotisme en 10 leçons, leçon 11, selon la seconde page de Garde, page de faux titre dont parlait Joël ce matin. Force est de mettre ici l'accent sur le deuxième terme de la contradiction dans la définition du post-exotisme. Les auteurs dont la culture depuis toujours a refusé l'idée du reniement en politique comme en littérature demeurent résolument fidèles à leurs convictions de militants, de sorte que constamment l'égalitarisme est le souffle politique que roque leur poumon, écrit Lutz Bassmann. Mais il ne faut pas négliger le fait qu'il s'agit plus d'engagés écrivains, j'avais déjà employé l'expression, que l'inverse. C'est-à-dire qu'ils commencent de produire leur littérature dans un temps de défaite complète, après et parce que leur élan émancipateur de l'humanité a été brisé et qu'ils ont été à jamais dépossédés de la joie de refaire le monde dans l'engagement militant à l'instar des vieillardes de Des Anges Mineurs. C'est la raison pour laquelle le terme d'avant-garde paraît absurde à Lutz Bassmann. Je cite « À défaut de trouver pour le post-exotisme une place convaincante, on le relègue au sein des avant-gardes envers lesquelles, il faut bien le dire, sa relation est la même qu'envers le reste du monde non carcéral », déplore-t-il dans la leçon 7 du post-exotisme, on dit leçon 11. Loin de se trouver à l'avant-garde de la révolution mondiale, comme entendait l'être le surréalisme, le post-exotisme s'élabore sous les décombres de la Révolution mondiale, résolument comme une littérature d'après l'obscène catastrophe que représente l'échec du projet révolutionnaire au XXe siècle. Et loin d'être mu comme les avant-gardes par des logiques d'intérêt, de chercher à asseoir une autorité et une légitimité en constituant un contre-monopole officiel, il refuse, quant à lui, de se compromettre dans toute forme de jeu social, et c'est ainsi qu'il se définit aussi comme une littérature carcérale de la rumination, de la déviance mentale et de l'échec, qu'il mérite une conception du monde carcéral comme moindre enfer par rapport au dehors, et qu'il ne revendique d'ambition littéraire autre que carcérale. Je ne perds pas de vue, évidemment, que je suis ici la logique de la fiction et de son propre discours théorique. Mais il me paraît néanmoins important de souligner deux choses. Premièrement, que si le post-exotisme se pose en tant que littérature politique, c'est en s'opposant à un mode d'articulation de la littérature et de la politique qui ne lui semble purement et simplement plus possible étant donné la réalité de la défaite. Deuxièmement, qu'il entend mettre en œuvre une politique de la forme résistante, pour reprendre la formule de Rancière, en tant que littérature carcérale. Cependant, sans parler de l'objection d'un Debord qui ne conçoit la politique de l'art que sous son versant interventionniste, et donc pour qui l'échec du surréalisme sonne le glas de l'art. Il parle de mort de l'art dès 1954 et confirme ce verdict en 1985. Il faut noter que même à quelqu'un comme Rancière, la politique de la forme résistante post-exotique apparaîtrait sans doute problématique. Il a dû décliner notre invitation, donc je manque l'occasion d'en débattre avec lui. Et comme par ailleurs, j'ai déjà fait ce diagnostic dans un article, je ne vais pas m'étendre trop longuement, mais je pense qu'il pourrait qualifier le post-exotisme d'art post-utopique, du fait que toute espèce d'espoir fuit cette œuvre, on y revient, qu'il n'y ait plus question d'émancipation politique, enfin que la conception du monde concentrationnaire comme moindre enfer peut sembler nihiliste. La confusion métonymique des écrivains post-exotiques entre utopie égalitariste et utopie concentrationnaire en particulier pourrait attiser sa critique, car il pourrait y voir la marque de ce qu'il appelle le tournant éthique contemporain, suivant lequel le camp devenant le nomos de la modernité, le temps tourné vers la fin à réaliser, progrès, émancipation ou autre, est remplacé par le temps tourné vers la catastrophe qui attend en arrière de nous, si bien que l'œuvre d'art semble se vouer sans fin, et là je tiens à souligner qu'il s'agit bien d'une citation, à la tâche éthique du témoignage où art et politique sont annulés ensemble. J'ai évidemment beaucoup à objecter à une telle perspective critique, et le sort qui est fait au témoignage a même tendance à me fâcher un peu. Mais ce qu'il m'intéresse d'observer dans un premier temps, c'est que cette perspective critique est symptomatiquement celle d'un penseur dont toute la théorie de la littérature est fondée sur un refus. Le refus que quoi que ce soit ait pu arriver au régime esthétique de l'art inauguré par le premier romantisme. Certes, reconnaît-il à la fin de La parole muette, un soupçon a pu peser sur la version fondamentaliste de la poétique romantique, celle qui veut une littérature cohérente reposant sur un principe unifié, mais il faut comprendre que ce soupçon appartenait en fait au système des raisons qui fondent la littérature depuis le romantisme, un art sceptique. C'est ce que nous dit Rancière à la fin de La parole muette, dans le chapitre de conclusion. En aucun cas, insiste-t-il, ce soupçon n'a pu naître, et là c'est une citation, dans les années 40, des traumatismes de l'histoire ou de la démystification politique des fonctions du discours. Or, c'est le parti inverse qui ressort de l'œuvre de Volodine. Refuser la politique de l'art interventionniste du surréalisme étant donné la défaite, c'est prendre acte de ce que l'art et la littérature ont manqué à une promesse contenue dans leur détermination romantique, qui était de ne faire qu'un avec la réalité ou de se trouver sur le point de la produire. À cet égard, le fait qu'on trouve constamment des totalitarismes dans le post-exotisme au premier plan de la fiction ou en fond est très signifiant. Car si l'on peut dire que la promesse de l'art de ne faire qu'un avec la réalité échoue, c'est bien essentiellement du fait de la domination totalitaire. Je n'aime pas beaucoup exposer cette analyse dans le cadre d'une communication, alors que dans la thèse, ça doit bien faire actuellement plusieurs dizaines de pages, au-delà de la centaine. Mais enfin, je vais quand même essayer d'esquisser un peu une argumentation. La théorie du premier romantisme au fondement de toute la modernité littéraire s'articule sur une théorie historique. Le romantisme se définit en premier lieu par son refus de l'inconcilié opposé au monde moderne, compris comme un âge de la dissociation entre l'homme et le monde. Sa théorie de la littérature prend alors une dimension eschatologique, car elle dote la littérature d'une fonction de réconciliation. Contre les divisions et autres scissions du monde moderne, la littérature doit être capable de faire advenir une nouvelle époque ontologique, un âge de l'unité et de l'harmonie universelle. Ce que le romantisme appelle l'âge d'or, c'est précisément cela. Et c'est la littérature sous la forme d'une Bible, chez Novalis comme chez Friedrich Schlegel, qui doit l'inaugurer. Telle est la promesse de l'art de ne faire qu'un avec la réalité. Or, si l'on peut dire que cette promesse échoue au XXe siècle, ce n'est pas seulement en constatant avec Debord que le surréalisme n'est pas parvenu malgré lui à dépasser l'art en le réalisant dans la vie, c'est en constatant que, de façon concomitante à cet échec surréaliste, L'opération de dépasser l'art en le réalisant dans la vie, non en le supprimant, mais en le colonisant, porte en politique le nom de totalitarisme. Que lorsque nazisme et communisme, là c'est une citation j'inclus une citation de Claude Lefort dans La complication, retour sur le communisme. Lorsque nazisme et communisme annoncent la résolution des conflits qui déchirent le monde moderne et ont toujours déchiré sous une autre forme l'humanité, fin de citation, ils déclarent leur volonté de faire advenir une nouvelle époque ontologique et que, donc, le désir révolutionnaire de réaliser le royaume de Dieu, selon un des fragments de l'Athénéum, cet aiguillon de l'histoire qui trouve une issue en littérature suivant le romantisme, trouve plus tard une issue en politique suivant les partis totalitaires. La dette totalitaire dans son mode de pensée et d'action est d'autant plus frappante que l'opération par laquelle les pouvoirs totalitaires se légitiment n'est autre que l'opération de romantiser. Alors là, je ne sais pas trop si je développe. Je vais quand même essayer d'improviser comme ça sans papier sur un point. Pour le dire vite, on a tendance souvent à caricaturer l'idée de génie romantique en disant que ça définit l'artiste comme le sujet libre, capable de créer un monde à partir de rien. Cela n'a absolument rien de faux. Sauf que on considère pas que c'est à considérer justement à l'aune de cette action de romantiser, de cette opération de romantiser, le verbe est chez Novalis, qui consiste en ce que le moi empirique de l'artiste s'identifie à une sorte de moi supérieur, et que donc l'artiste, pour avoir ce pouvoir de démiurgique que lui donne la théorie romantique, l'artiste donc n'est pas seulement ce sujet libre capable de créer un monde à partir de rien, il est aussi un sujet médiateur qui se fait en quelque sorte le filtre de l'esprit de la nature qui habite le monde, puisque le fondement de métaphysique de cette théorie romantique est l'idée que d'un monisme ontologique entre l'être et la pensée, et que ce monisme ontologique fait que toute chose parle. Voilà. Et donc cette théorie romantique, pourquoi je dis que les pouvoirs totalitaires la reprennent dans leur façon de se légitimer, c'est que quand on voit ce que répond un Goebbels à un Furtwängler au moment où il commence à instaurer une purge des juifs de la musique, Furtwängler proteste en disant il n'y a qu'un critère de sélection en art, c'est ou le bon art ou le mauvais art. Et donc il s'agit de et à cela le Goebbels répond par une lettre publique dans un journal. Dans laquelle il dit « Nous autres, hommes politiques allemands, nous sommes censés être comme le sculpteur qui va sculpter la masse du peuple, et comme suivant l'image de l'arbitraire de l'artiste qui va prendre cette masse compacte et puis former, c'est ce qu'on voit, on a des représentations de Hitler comme ça, en train de prendre une sculpture un peu avec plusieurs personnages, mettre ça, faire une boule avec ça, puis dessiner quelque chose qui ressemble à une statue d'Arnaud Breker. Voilà, ça c'est pour le versant qui hérite du sujet qui arbitraire, qui va former l'image du peuple allemand. Par ailleurs, dans une deuxième partie de son propos, vient contrebalancer ça en disant « mais notre légitimité vient de ce que nous sommes la voix de ce peuple ». Nous autres hommes politiques allemands. Nous travaillons pour le peuple, mais aussi par le peuple. Voilà. Donc fin de cet excursus sans papier. Entendons-nous bien. Il ne s'agit en aucune manière d'accuser le romantisme de quelques penchants totalitaires. Évidemment. Analyser les origines du totalitarisme en termes de déterminisme historique serait d'ailleurs d'autant plus problématique que la logique totalitaire elle-même procède de cette façon, que pour répondre à son désir d'infaillibilité, le pouvoir totalitaire se doit de fonder sa légitimité sur le mythe d'une nécessité historique telle que les lignes du présent soient déjà imprimées dans le passé et que les lignes du futur soient déjà imprimées dans le présent. L'inscription d'une réalité dans une histoire permet de déterminer les conditions de possibilité, des conditions de possibilité en termes foucauldiens, et non des causes, ce qui change tout, notamment en termes de prévisibilité. De même que l'on ne peut pas induire la théorie et la pratique totalitaire de la théorie romantique, on ne peut pas induire la théorie du réalisme socialiste, par exemple, de cette même théorie romantique. En revanche, très logiquement, la captation de l'héritage romantique apparaît tout aussi clairement dans l'élaboration du réalisme socialiste que dans celle du régime soviétique ou du régime nazi lui-même. C'est très net, notamment dans tout ce qui se désigne au premier congrès des écrivains de 1934 à Moscou sous le nom de romantisme révolutionnaire et que Jdanov suggère fermement de faire entrer dans la création littéraire comme une composante. Et alors là, pour ce qui est de l'opération de romantiser, voilà ce qu'elle devient dans la théorie du réalisme socialiste, cette identification dont parle Novalis du moi inférieur à un moi supérieur, doit permettre à l'écrivain d'adopter l'esprit de parti ou esprit de tendance. De façon, selon Karl Radek, à avoir présente à l'esprit la marche du monde entier, et depuis ce point de vue infaillible, qui est le point de vue de la victoire prolétarienne, à pouvoir présenter non pas la réalité telle qu'elle est, ce qui serait une hérésie naturaliste, mais la réalité dans son développement révolutionnaire, celle qui permet d'entrevoir le sens de l'histoire. En somme, le poète Ilya Lvovitch Sielvinski résume assez bien ce que devient la romantisation à l'époque totalitaire quand il dit que, dans la formule de réalisme socialiste, le mot socialiste après le mot réalisme a le même sens que le commissaire qui doublait le responsable militaire du temps de la guerre civile. J'aime beaucoup cette comparaison. Antoine Volodine m'a suggéré à l'occasion de considérer ce que le post-exotisme doit au réalisme socialiste, et on a rappelé effectivement dans ce sens tout à l'heure qu'il y ajoute le mot magique. C'est la raison pour laquelle je ne prends pas du tout cette suggestion pour une plaisanterie. Je ne peux ici que présenter une hypothèse de travail, puisque je ne suis pas encore là dans la rédaction de la thèse, mais en même temps, j'ai du mal à croire que mon investigation à venir m'oblige à réviser mon jugement. Pour l'exposer sous forme de boutade, je supposerai volontiers que la matière réaliste socialiste à la sauce post-exotique risquerait rétrospectivement quelques vilains démêlés avec la censure soviétique, de quelque époque que ce soit d'ailleurs. Qu'on demanderait des comptes à l'auteur sur ses héros positifs notamment, étant donné que leur parcours préfigure assez mal le chemin grandiose de millions d'hommes conduisant vers l'avenir radieux. Que d'ailleurs, on pourrait même s'interroger sur ce que sont devenus les millions d'hommes que les héros positifs sont censés représenter, puisque l'humanité tend à se faire rare dans les fictions post-exotiques, et que donc le principe du typique dans l'exceptionnel suivant Lukács en prend un coup, forcément. mais je ne m'attarde pas. Plus encore que la captation totalitaire de la théorie romantique sur un plan de politique générale, c'est cette colonisation totalitaire de l'art et de la littérature qui est problématique relativement à ce qui me préoccupe ici, cette façon dont la norme du collectif, selon l'impératif totalitaire de l'organisation, s'impose en matière d'art et de littérature. Ce que dit la suggestion de Volodine de considérer l'héritage du réalisme socialiste dans le post-exotisme, c'est que l'on ne peut pas faire comme si ce destin totalitaire de la théorie romantique n'avait pas existé. Comme si on ne peut pas faire comme si c'était seulement un accident de son histoire qu'il suffisait de jeter aux oubliettes pour poursuivre la pratique de l'art d'écrire comme avant. Peu importe que l'on puisse qualifier le réalisme socialiste d'esthétique impossible, ça c'est une formule de Régine Robin, ou de pseudo-littérature, ça c'est une formule de Jean-Pierre Morel, il reste que cette pseudo-littérature totalitaire s'est articulée sur la tradition littéraire issue du romantisme au point de sauver les apparences de la littérature et qu'elle a donc été une possibilité de l'art. On comprend alors peut-être mieux la proposition que je fais de considérer le post-exotisme comme un régime artistique qui se distingue du régime esthétique inauguré par le romantisme. La réception critique du réalisme socialiste n'a rien, en l'occurrence, d'un jeu parodique postmoderne tel qu'il se pratique beaucoup dans la littérature russe contemporaine. Elle procède plus gravement, me semble-t-il, mais il y a aussi du grave dans la littérature russe contemporaine, si j'ai pas de caricaturer non plus. Elle procède plus gravement, me semble-t-il, d'une interrogation sur la possibilité de la littérature par-delà les totalitarismes et leur production pseudo-totalitaire. Avancer l'idée que le post-exotisme désigne un régime artistique d'après les totalitarismes, c'est ainsi concevoir une vaste profondeur en arrière-plan du post-exotisme au XXe siècle. Autrement dit, puisque les traditions ne se construisent jamais que rétrospectivement, ça je l'ai déjà dit, concevoir que le post-exotisme de Volodine construit une tradition au XXe siècle qu'il tend, quant à lui, à synthétiser de la même façon qu'il synthétise dans ses récits la catastrophe de l'échec révolutionnaire depuis son point de vue d'ange de l'histoire, brassant sur un mode fantasmatique les tragédies du XXe siècle, les guerres, les révolutions, les génocides et les défaites du XXe siècle. Ça me paraît important, cette idée de synthétisme au niveau diégétique, par rapport à la notion de catastrophe. Mon idée, c'est que c'est dans cette tradition que le post-exotisme est un régime artistique synthétique qui synthétise, autrement dit, toutes ces œuvres qui prennent en charge déjà tout au long du XXe siècle ces tragédies du XXe siècle. Quant à cet arrière-plan du post-exotisme, on peut commencer par mentionner des références théoriques. Et en fait, je m'en tiendrai à peu près là, pour aujourd'hui. Une interrogation sur la possibilité de la littérature par-delà les totalitarismes et leur production pseudo-littéraire ne peut pas ne pas faire penser d'abord à Adorno, forcément. Puisque c'est de cela qu'il s'agit quand il pose, en 1949, sa question sur la possibilité de la poésie après Auschwitz. Et c'est en tout cas ce que je retiens des explications qu'a donné Adorno en 1962 à une réponse à Enzensberger, dans son article sur l'engagement d'Adorno paru dans les notes sur la littérature, puis encore dans un cours de 1965, qui a paru en français aussi. À savoir, donc, pour ce qui est de ces explications qu'a donné Adorno, qu'il n'a évidemment pas énoncé un interdit absolu, mais qu'il a jugé que la littérature se devait de se confronter à ce constat d'une impossibilité, autrement dit qu'elle devait faire preuve, d'une intransigeance absolue, je cite, hein, en évitant résolument de continuer à jouer sa partie dans la culture qui a accouché du génocide nazi. Alors, évidemment, puisqu'il s'agissait d'Auschwitz. Adorno a d'ailleurs eu la même exigence en philosophie, ce qu'on oublie plus souvent. Au demeurant, et alors moi ce qui m'intéresse ici, c'est aussi quand même de donner une profondeur à cette réflexion d'Adorno, au sens où, à mon sens, il n'est même pas, évidemment il est le premier à le faire après Auschwitz, de façon aussi retentissante tout au moins, mais que cette réflexion d'Adorno est au fondement de toute la théorie esthétique qu'il développe dans les années qui suivent. Or, si on considère l'importance pour cette théorie de la pensée de Walter Benjamin, on peut se demander si cette question sur la possibilité de la poésie n'est pas en fait déjà directement inspirée par celui-ci. Donc, non pas quant à lui par rapport à l'extermination des Juifs d'Europe, puisqu'il s'est suicidé en 1940, mais par rapport au fascisme et au nazisme, tout de même déjà. À cet égard, le cheminement intellectuel de Benjamin est tout à fait remarquable parce qu'il part d'une thèse sur le premier romantisme allemand en 1919 et que sa pensée est à ce moment-là très fortement influencée par la théorie romantique, en particulier par le messianisme qu'il reconnaît comme le cœur du romantisme. Or, après sa rencontre avec Brecht et sa lecture de Marx, s'opère un revirement qui culmine, à mon sens, en 1935 avec le texte sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Ce texte traite du dépérissement de l'aura au XIXe siècle lié au développement des techniques de reproduction des œuvres d'art, à l'apparition des arts techniques que sont la photographie et le cinéma. Mais ce n'est pas pour déplorer ce dépérissement, quand bien même il affecte en premier lieu la théorie romantique comme théorie de l'œuvre d'art auratique. Bien au contraire, la notion d'aura participe d'une critique du concept d'art tel que nous l'a légué le XIXe siècle, soit une conception de l'art qui s'attache à faire subsister la valeur culturelle de l'œuvre d'art à l'ère de la sécularisation de l'art et du culte de la beauté, une conception de l'art à partir des représentations magiques, qui devient d'autant plus mystique que l'art s'éloigne de la possibilité d'un usage vraiment magique. Ce pourquoi il s'engage dans une telle critique, il s'en explique dans une lettre à Max Horkheimer en 1935, en historien matérialiste qu'il est. Le destin de l'art au XIXe siècle n'a pas quelque chose à nous dire en lui-même. Il n'a, je cite, quelque chose à nous dire que parce qu'il est gardé dans le tic-tac d'une horloge dont l'heure n'a sonné pour la première fois qu'à nos oreilles, et il met nos en italique, parce que c'est pour nous qu'a sonné l'heure fatale de l'art, écrit-il. C'est pourquoi les thèses qu'il expose dans ce texte écartent une série de concepts traditionnels, création et génie, valeur d'éternité et mystère, dont l'application incontrôlée et pour l'instant difficile à contrôler, écrit-il donc en 1935, conduit à l'élaboration des faits dans un sens fasciste. Dans ce qui suit, donc dans son article L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, dans ce qui suit, les concepts que nous introduisons dans la théorie de l'art se distinguent en ce qu'ils sont complètement inutilisables pour les buts du fascisme. Benjamin ne l'écrit pas exactement dans ces termes, mais on comprend que fondamentalement, le problème de l'aura à l'époque de la seconde technique, ce qu'il appelle aussi la seconde technique, n'est autre que le kitsch. Dans ce sens, il est d'ailleurs possible d'articuler la réflexion benjaminienne avec la critique du kitsch d'Hermann Bror, même si celle-ci me paraît moins dialectique. Ce qui ressort de ses travaux, c'est que la théorie romantique a conditionné la possibilité du kitsch avant de conditionner celle de la possibilité de la pseudo-littérature totalitaire, et que c'est ainsi, par cette médiation du kitsch, par exemple du kitsch génial wagnérien, j'aime beaucoup cette expression de kitsch génial à propos de Wagner, employée par Bror, Donc c'est ainsi par cette médiation du kitsch que s'explique l'héritage romantique de la pseudo-littérature totalitaire. Cela peut paraître paradoxal car au premier abord, il semble qu'on puisse s'en tenir à l'analyse marxiste critiquée par Bror, suivant laquelle la bourgeoisie a dégradé l'art jusqu'à en faire une marchandise kitsch, et suivant laquelle donc le kitsch, lié à la reproduction mécanisée, participe plutôt de ce qui détruit l'œuvre oratique romantique. C'est en partie ce qu'affirme Benjamin, et malgré Bror, il ne s'agit pas de le contester, mais il s'agit aussi d'observer que, dans le temps que l'art se livre au marché, il favorise la naissance de la fantasmagorie de la marchandise, autrement dit que ce que Marx appelle les subtilités métaphysiques et les arguties théologiques de la marchandise s'articulent en fait sur la valeur culturelle de l'œuvre d'art. C'est ce qui fait que les Parisiens du XIXe siècle admirent le luxe industriel des passages, puis que les expositions universelles deviennent, écrit Benjamin, des centres de pèlerinage de la marchandise fétiche. Sans cette seconde partie de l'analyse qui rejoint la thèse de Bror, on ne comprendrait assurément pas pourquoi, d'une part, la valeur culturelle de l'art, de l'œuvre d'art, devient problématique, y compris dans des œuvres de l'art pour l'art et de la décadence fin de siècle qui tâchent pourtant de prendre le contre-pied de l'art qui se livre au marché, et d'autre part, pourquoi le kitsch et après lui l'art et la littérature totalitaire se révèlent capables de sauver les apparences de l'art et de la littérature. Le passage par cet arrière-plan théorique du post-exotisme me permet, et là ce sera vraiment des mots de conclusion parce que je n'ai fait qu'esquisser, et puis de toute façon le temps commence à avoir passé. Tu me corrigeras sur la conjugaison. me permet à présent de revenir donc sur le parti pris de Volodine de mettre en œuvre une politique de la forme résistante dans une littérature carcérale. Donc c'est vraiment quelques pistes. Parce que le partage kitsch et art est par là une problématisation de la détermination romantique de la littérature, sous-tend précisément, à mon sens, toute une littérature ou tout un art d'écrire, produit par des femmes et des hommes conscients de catastrophes, et d'ailleurs, la plupart du temps, victime de l'une d'entre elles au moins, et que dans cette littérature ou cet art d'écrire, le témoignage des guerres, des camps, des génocides occupent une place non négligeable, je dirais même plus, une position clé. Et pour en donner une idée, Catherine en a donné une première partie tout à l'heure avec la référence à l'article de Kérol de 53 dans Esprit, témoignage et littérature. Kérol s'en prend notamment à Éric Maria Remarque et à Robert Merle, au Robert Merle de La mort est mon métier, et s'en prend à tout ce qu'il appelle le romanesque concentrationnaire. Il a des mots assez terrible pour ces deux auteurs, c'est assez amusant de voir comment ces mots de Kérol à propos du romanesque romanesque concentrationnaire, ça va pas là. Ces mots de Kérol à propos des romans concentrationnaires, pardon, c'est quand même important de faire la nuance, ces mots de Kérol résonne avec quelque chose qui date de 20-25 ans auparavant, de Jean Norton Crewe dans ses réflexions sur le témoignage de la Première Guerre mondiale, où il oppose les témoignages de la Grande Guerre à la littérature de guerre, y compris des pacifistes comme Barbus, comme Éric Maria Remarque déjà, qui ont tendance à humaniser ce qui n'a rien d'humain, mentant à qui mieux sur le courage, le patriotisme, le sacrifice, la mort, y compris même avec des intentions pacifistes, en véhiculant des clichés de toute une tradition d'art et de littérature qui narre la guerre. Donc Kérol, j'ai cité Kérol, j'ai cité Jean Norton Crew, on pourrait encore citer Celan, disant que voulant écrire dans une contre-langue après l'usage de la langue qui a été fait dans des œuvres de l'époque nazie et qui donc reproche à cette langue son esthétisme et donc ce que Bror déjà distingue comme une opposition, une désarticulation entre esthétique et éthique. On peut penser à un Jean Améry qui dit lui aussi que on peut pas écrire après Auschwitz en se revendiquant de Goethe et d'autres auteurs de l'époque romantique, en faisant comme si un Frédéric Blunk, directeur de la chambre de littérature du Troisième Reich et écrivain, comme si donc ce qu'avait pu écrire celui-là n'existait pas. On peut encore penser à un Chalamov, disant qu'aucune force au monde ne ressuscitera le roman de Tolstoï, et qui entend situer ses témoignages loin de la tradition littéraire, en soutenant que ce n'est pas de la littérature qu'il fait. Voilà, à chaque fois, ce rejet de la tradition littéraire au profit d'un art d'écrire se fonde sur la réalité de l'expérience. Et il s'agit quand même pas de dire qu'à partir de ce moment-là, la littérature ne serait destinée qu'aux documents ou aux témoignages, évidemment. Mais il s'agit de dire des réflexions qui viennent d'être développées dans la communication de Catherine tout à l'heure, sur l'idée qu'il y a forcément quelque chose qui s'imprime, qui fait que les témoignages sont comme un substrat de la littérature dans cette tradition post-exotique. C'est important de rappeler, et je ne sais plus si Catherine l'a précisé, mais quand il est question dans le travail de Marie-Laure Bazuyot, c'est quand elle parle de témoignages clandestins à propos de l'œuvre de Kérol, c'est bien en disant que certes il ne s'agit pas de témoigner, enfin ou plutôt de témoigner indirectement, il n'écrit pas son témoignage, mais c'est systématiquement en ayant comme sous-texte les récits des témoins et qui vont revenir non seulement informer du point de vue diégétique le personnage lazaréen, mais aussi le régime artistique de ce récit lui-même. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là parce que...
Alors merci pour cette communication de clôture qui ressaisit l'histoire du XXe et celle du XIXe et qui propose une mise en perspective en même temps qu'une réflexion sur cette question qui est centrale avec Volodine de la politique et de la dimension politique de l'œuvre. Alors je vais donner la parole à la salle et à vos réactions et commentaires éventuels.
Mmh. C'était si consternant.
Le tartare, j'allais le citer.
Ah, ah, ah. Il va rater son train.
Il y a un taxi qui l'attend, donc bon.
Ouais, il va rater son train.
Non, tu peux partir, c'est pour faire un compliment.
Alors, Anne Roche.
C'est sûr que tu nous as présenté un panorama extrêmement riche, mais c'est difficile de réagir par rapport à toutes les propositions théoriques qui y sont contenues. Cela dit, alors c'est là que Philippe entre en scène, si j'ose dire. Moi, je voulais poser la question justement des rapprochements, théoriques ou non, et de leur éventuelle fécondité. Et par exemple, alors que je ne vais pas faire un livre parable ou un best-of, mais par exemple, quand Philippe Poussin, justement, a inscrit Volodine par rapport à Blanchot d'une part, Sartre d'autre part, ce n'était pas du tout dans une perspective d'histoire littéraire traditionnelle, c'est-à-dire pour se demander s'il les avait lus ou non, mais c'était une perspective extrêmement éclairante, parce que ça posait le travail de Volodine par rapport à des débats antérieurs, certes, mais qui, d'une certaine façon, gardent une certaine, sinon actualité, du moins vivacité. Bon, de la même manière, quand François Bizet a travaillé l'œuvre de Volodine en inscrivant au début le travail de Didi Huberman, bon, ben là aussi, ce n'était pas du tout en termes d'influence, mais c'était en termes d'un éclairage réciproque. Bon, je pourrais donner bien d'autres exemples. Il y a aussi le travail de Sylvie Servoise, qui était très intéressant, parce que justement, bon, elle n'est plus là.
Tu commences le bilan, là. C'est demain matin.
C'est pas un bilan, c'est directement par rapport à ce que tu as présenté. Quand elle a parlé de la littérature de témoignage et de la façon dont, justement, le travail de Volodine est, je crois, aux antipodes de la littérature de témoignage. Bon. Alors, ma question, si tu veux, c'est que je pense que des références théoriques, pour prendre de gros exemples, comme Marx ou Freud, dont certains disaient qu'il avait été un des grands absents du colloque. Bon, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas invité. On l'a pas invité. Bon, quand on donne des références comme celle-là, on voit d'emblée, ou on croit voir d'emblée, comment on va les faire jouer par rapport à l'œuvre. Mm-hmm. Moi, ma question, bon, le premier romantisme, tu as très bien expliqué ce que tu en faisais, comment tu le posais par rapport au travail de Volodine. Il y a une chose qui pour moi est moins claire, mais je ne sais pas si tu vas pouvoir l'expliquer en quelques instants, c'est la référence à Benjamin. Alors, on le connaît un peu tous les deux. D'accord. La présentation que tu en as faite me paraît tout à fait adéquate et juste, mais je n'ai pas tout à fait saisi. Alors, peut-être qu'il y a des moments où mon attention vacillait parce que c'est l'après-midi.
Ouais, et puis c'était un peu dense.
Je n'ai pas tout à fait saisi ce que tu en fais. Or, il me semble que c'est une référence qui est extrêmement importante. Mm-hmm. Et là aussi, bien entendu, c'est une référence qui ne se joue pas du tout en termes d'influence ni de rencontre, mais plutôt en termes d'un éclairage antérieur. Et tu as très justement dit, justement, à propos de la tradition, que la tradition, c'était toujours quelque chose qui se jouait après coup, hein, qui était une reconstruction rétrospective, je crois que tu as dit. Donc, ouais. Ma question, je veux dire que c'est la question à 1000 francs, ou à 1000 euros, c'est comment tu articules ta lecture, notamment de Benjamin, par rapport à l'auteur qui nous occupe ici, au corpus. Alors, on peut demander au corpus de sortir.
Non. Écoute, merci, je vais repréciser. J'ai essayé de le dire, mais c'était un peu rapide. Il y avait déjà une intervention que j'avais faite à un moment du colloque où je disais que c'était intéressant de voir que j'avais déjà marqué que pour moi il y avait vraiment deux temps dans l'œuvre de Benjamin. Un premier temps donc sous influence du romantisme, un deuxième temps critique, ce qui ne veut pas dire que le romantisme est évacué, mais qui entre dans un rapport critique et dialectique au romantisme. C'est le deuxième temps qui m'intéresse, évidemment, puisque je situe l'œuvre de Volodine aussi chez Benjamin, c'est sur un plan théorique, dans le post-exotisme, sur un plan de pratique artistique. Mais il me semble là que la réflexion de Benjamin arrive comme en 1935 là sur l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, dans un moment justement où a sonné l'heure fatale de l'art. Et cette idée d'heure fatale de l'art, c'est l'idée qu'on est obligé de reconstruire une théorie artistique qui démarque clairement l'art de la récupération qui a pu en être faite par l'art totalitaire. Et donc de forger de nouveaux outils théoriques pour qui déterminent, autrement que l'avait fait le romantisme, de nouvelles pratiques. Et sans, alors, il ne s'agit pas, tu as raison de dire, d'insister sur le fait qu'il ne s'agit pas de parler en termes d'influence, parce qu'il ne s'agit pas de dire que les auteurs de témoignages ont lu Benjamin et puis ont essayé de mettre en pratique, mais que, qu'en l'occurrence, cette réflexion théorique, qui va influencer, là, pour le coup, vraiment très directement la théorie esthétique d'Adorno, et qui trouve un contrepoint déjà dans des pratiques artistiques où, dont les auteurs, alors ça je l'ai fait vraiment de façon très, très floue à la fin, mais des auteurs que j'ai énumérés, en tout cas Celan, Shamoff, Améry, etc., sont tous dans un rejet de... d'une tradition qui précède. Et il me semble que c'est ça le poste dans post-exotisme. C'est vraiment comment trouver un régime artistique de l'après. Et alors, je peux pas encore te répondre sur quels sont les outils théoriques de Benjamin pour cette nouvelle pratique d'art. Là, c'est vraiment ce que je dois écrire cet été.
Juste encore un mot, c'est quand Benjamin écrit, il y a une tradition qui est catastrophe. Et ça répondrait peut-être à Améry, disant que c'est pas qu'Améry pose une interdiction, c'est qu'il dit qu'effectivement, Goethe, quelque part, ça marche plus. Ça resterait à voir. Enfin, voilà, il y a une tradition qui est catastrophe. Ça veut dire qu'il y a une reconduction des modèles du passé qui ne fonctionne plus, qui est de l'ordre de la catastrophe. C'est ça, un modèle qu'il faut questionner, parce que je ne suis pas certaine que ce soit généralisable. Mais ça pose la question de la tradition.
Il n'est pas question de dire que Goethe ne fonctionne plus, il est question de dire on ne peut plus écrire comme Goethe. Ou comme Chalamov qui dit on ne peut plus écrire comme Tolstoï. Ce qui est un interdit, tu vas me dire, c'est complètement faux. C'est le réel de la production.
C'est un interdit complètement abstrait. Promenez-vous en librairie, vous verrez.
Mais exactement. On ne peut plus, évidemment, il est un peu péremptoire. On peut le discuter, mais il me semble qu'il est au principe d'une détermination de cette tradition, justement. Alors, il s'agit bien de dire que la tradition post-exotique, elle renferme pas toute la littérature produite depuis 1917, hein. Il s'agit de dire que ça va être plutôt du côté de Platonov que du côté de Gorky. Ça va être plutôt du côté des témoignages concentrationnaires que du roman concentrationnaire à la Eric Maria Remarque. Enfin, voilà, cette méfiance, ce soupçon là sur comment on écrit. Eh bien, est là malgré ce que dit Rancière et peut produire quelque chose qui n'est pas. Alors, pour essayer peut-être poursuivre le débat, mais cette idée de politique de la forme résistante, pour moi, c'est quand même sérieux. C'est peut-être un terme qu'on n'a pas utilisé. On a essayé de mettre le politique par rapport à la question de l'utopie. Peut-être qu'il faut la mettre aussi par rapport à la fonction critique de l'art.
Voilà. Catherine Coquillon.
En fait, moi, je pense que Benjamin ne nous aide pas à penser la littérature de témoignage profondément, et de même, sa notion de catastrophe trouble les choses davantage qu'elle-même à les penser si on se met à affronter ce que c'est que la catastrophe génocidaire, précisément. Donc, il y a une aide d'un autre ordre. chez Benjamin, mais au moins alors peut-être dans un texte qui s'appelle Expérience et pauvreté, voilà, qui était d'ailleurs en 1933, je crois, où là il est dit à la fin il faut s'apprêter à survivre à la civilisation. Et c'est là qu'il conçoit cette idée très troublante d'une barbarie positive. Et là, pour moi, il y a quelque chose qu'on peut essayer de reformuler, de repenser dans cette barbarie positive. Parce qu'il dit, il a une série d'images qui, moi, font beaucoup penser à ce que font certains survivants pour tenter de témoigner. C'est-à-dire se débrouiller à partir de plus rien ou de rien. Regarder à droite et à gauche, c'est-à-dire volontairement limiter ses horizons. C'est un petit peu principe même de la littérature de témoignage. Dans un premier temps, c'est-à-dire que pour moi, tout le travail que j'évoquais à travers Kérol, c'est-à-dire de fictionnalisation, de littérarisation du témoignage, fait qu'en fait, ces écrivains, et on voit très bien chez Cartès, on voit très bien chez Améry aussi, il y a une relève du romantisme critique. Donc il y a vraiment quelque chose d'un jeu de réflexivité à l'infini. J'ai vraiment pas mal d'écrivains importants, enfin de ceux qui font partie de la littérature de témoignage de la Shoah en particulier, qui sont pour moi familiers, parents de la tradition de l'ironie romantique allemande. Pour Kertész, ça me semble vraiment très important, ça passe par Thomas Mann en particulier. Pour moi, donc, les choses ne sont pas aussi cloisonnées, et c'est quelque chose d'ailleurs que Rancière, à mon avis, écrase. De toute façon, Rancière, dans le domaine de la littérature, c'est vraiment la philosophie à coup de marteau, quoi. Et je pense qu'il faut s'en éloigner si on veut vraiment lire la littérature. Mais tu es d'accord, oui.
Oui, je vais relire Expérience et pauvreté, il faut absolument. Moi, j'avais essayé quand même de voir aussi dans l'évolution de Benjamin la différence entre l'époque où il est sous influence du romantisme. Mais quand tu dis que c'est cloisonné, moi je cloisonne pas quand je dis que c'est un temps critique, c'est-à-dire que je pense qu'il ne s'agit pas de dire on rejette l'héritage romantique. Ça reste la définition, la détermination romantique continue de. Il a déjà été question de ce qu'on vit une époque qui essaie d'en finir avec la littérature. Enfin, j'ai des gens comme Schaeffer ou Jean-Marie Schaeffer. Où Todorov parle de fin de la littérature, et moi ça me dérange beaucoup, parce qu'en l'occurrence il s'agit vraiment d'essayer de liquider le romantisme comme le passé d'une illusion, exactement comme on déjà parlait, et ou comme on veut liquider l'idée communiste comme le passé d'une illusion. Et c'est vraiment pas du tout ma perspective, parce que là c'est la perspective qui justement veut balancer cette idée de littérature encombrante pour revenir à la question des genres. C'est bien pour ça que cette question des genres est quand même très présente dans les réflexions théoriques contemporaines. Et donc, pour revenir à ce que j'avais perçu et ce par quoi peut-être Benjamin peut quand même le cheminement de Benjamin peut en tout cas désigner quelque chose qui marque l'apparition du témoignage aussi, coïncide avec ce que va faire le témoignage à la littérature, c'est que à l'époque où il est sous influence du romantisme, il ne conçoit pas que le récepteur, que la figure du récepteur puisse nous apprendre quoi que ce soit sur une œuvre d'art. Et c'est déjà plus du tout sa position dans un texte comme Le Narrateur, où là il parle, alors on avait eu une hésitation au cours du colloque de transmission d'une expérience de bouche en bouche Je crois que c'est de bouche en bouche, en fait, la formule.
D'oreille à oreille.
D'oreille à oreille. Il faudrait retrouver, là. Je suis désolé, je l'ai pas là. De bouche à bouche. Et cette idée de transmission, quand même, et de réinscrire le texte dans quelque chose qui vise un destinataire et qui, à partir de là, peut-être essaie aussi de redonner figure à la communauté. C'est l'hypothèse que j'essaie de faire dans le dossier là, que j'ai réuni dans l'étude littéraire qui va paraître. Justement, dans ce lien-là qui essaie de s'établir implicitement à l'intérieur des textes eux-mêmes, entre auteur, lecteur via le texte, il y a peut-être quelque chose qui essaie de se créer comme lien et comme image de la communauté. Voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu complètement. Je cale.
On va peut-être pouvoir continuer la discussion autour d'une coupe de champagne maintenant qu'on a bien travaillé.